devenir son leader.
Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader. 52 épisodes pour changer de vie. Notre podcast va vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être, devenir son leader. Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership. Alors, notre programme du jour s'articulera autour, bien sûr, de la question des auditeurs et auditrices, une entrevue de notre leader du jour, Gwenaël Bâtard, et nous terminerons avec un exercice sur notre thème du jour dont je vous ferai un retour de mon expérimentation sur la semaine. Notre sujet du jour parlera du sourire. Mais avant, commençons par une question de nos chers auditeurs et auditrices. Christelle, 20 ans, en recherche d'emploi, nous écrit « Bonjour Nicolas, j'ai un peu de mal à communiquer avec les gens de faire le premier pas. Aurais-tu un conseil pour m'aider à le faire à ce premier pas facilement ?» Merci Christelle pour ta question. J'ai exactement une astuce qui va te faciliter de faire le premier pas. Cette astuce est gratuite et vraiment très facilement à mettre en place. C'est le sourire. Cela peut te paraître ridicule, mais depuis la nuit des temps, le sourire est considéré comme un comportement d'ouverture et d'accueil. Et d'après les statistiques, 90% de notre message passe par la communication non verbale. Le sourire, surtout s'il est authentique, donne immédiatement plus confiance en toi, chasse les images négatives et te rend tout de suite ouverte et sociable. Les chercheurs ont découvert que sourire provoquerait des hormones du bonheur et durable dans le temps. En sachant que ce sont les 3 premières secondes qui sont importantes pour donner une bonne impression, souris un maximum pour pouvoir donner la meilleure image de toi-même. Car comme dit le proverbe chinois, un sourire ne dure qu'un instant, mais son souvenir est doux et agréable. Passons avec le sourire à notre interview avec notre leader du jour, Gwenaël Bâtard. Alors bonjour Gwenaël.
Bonjour Nicolas.
Tu as 38 ans, tu es praticienne Ayurveda du sourire, herbaliste, auteure, conférencière et animatrice radio.
C'est ça.
Rien oui. que ça.
Oui, en fait, je ne savais pas si tu avais fini. Mais non, oui, c'est ça. Oui. Praticienne en médecine ayurvédique, plus précisément. Et fondatrice de l'Ayurveda Sourire, si je peux me permettre, parce que c'est important, ces petits détails.
C'est des détails qui font leur importance.
Tout à fait.
Alors, tu es praticienne en Ayurveda Sourire. Alors, est-ce que tu peux me donner une définition de l'Ayurveda Sourire et en quoi ton approche est différente?
Alors déjà, l'Ayurveda, peut-être parce que je ne sais pas si les gens connaissent l'Ayurveda, c'est une des médecines indiennes traditionnelles, c'est la plus vieille médecine du monde, hein. C'est une médecine qui considère l'être dans tout ce qu'il est, donc une médecine holistique, et puis qui vise en fait à rétablir l'équilibre, à le maintenir et puis à redévelopper les capacités naturelles d'autoguérison du corps. Donc ça c'est l'Ayurveda, et donc l'Ayurveda sourire, en fait c'est un mélange entre l'Ayurveda traditionnel, le pur, le vrai, et la puissance en fait justement de la pensée positive, du développement personnel et puis mon savoir en plantes médicinales. Donc j'associe tout ça pour pouvoir accompagner justement mes clients que j'appelle des pépites à rayonner de toute leur splendeur. Donc voilà, sur toutes les sphères de qui ils sont, que ce soit les sphères joyeuses ou les sphères douloureuses.
Alors justement, je suis allé sur ton site, j'ai vu que oui, tu pouvais guérir et donner leur toute puissance à toute pépite, à toutes ces personnes qui sont des pépites. J'ai vu aussi que le premier facteur important, c'était la santé et cela passait par la nutrition.
Alors, déjà, je vais juste revenir sur le mot « guérir ». En fait, je ne peux pas guérir les gens puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas une professionnelle de santé, je suis praticienne bien-être. Donc, je les accompagne en fait sur leur bien-être pour qu'ils aillent mieux. Je pense qu'en réalité, s'il y a une guérison, elle s'opère parce que les personnes en fait trouvent en elles le potentiel pour pouvoir aller mieux, avec l'Ayurveda sourire et avec d'autres choses aussi. Ça peut très bien être de la médecine allopathique aussi. Tout, en fait, peut se conjuguer, se combiner. C'est toujours un ensemble de choses. Donc voilà, et l'alimentation, en effet, c'est fondamental en Ayurveda, c'est un des piliers, puisque en réalité, déjà, on dit souvent « nous sommes ce que nous mangeons », je dirais plutôt qu'en fait, la nourriture, ça construit la personne que nous sommes, mais que nous sommes surtout ce que nous digérons, en tout cas selon l'Ayurveda. Donc voilà, l'alimentation, bien sûr, mais c'est surtout la digestion, en fait, qui va faire la grande différence, et la digestion sera toujours à la fois physique et émotionnelle. Donc, ce n'est pas que la nourriture, mais c'est aussi en fait comment j'arrive à digérer, à métaboliser et à transformer tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qui vient à moi en fait.
D'accord. Alors, je suis un peu perdu. L'Ayurveda, c'est pour moi quelque chose de très lointain. La seule chose que j'ai pratiquée, c'était un massage ayurvédien qui était magique. C'était vraiment une expérience formidable. Si je devais venir chez toi, quelles seraient les méthodes que tu utilises ?
Alors, moi, j'accompagne en fait vraiment avec des outils de médecine ayurvédique. Je ne fais aucune thérapie corporelle. Donc, on va dire que la personne arrive en fait dans mon cabinet et puis on va parler de qui elle est, déjà de toute son histoire de vie, parce que ça, c'est extrêmement important. Je vais observer sa langue, je vais prendre son pouls, je vais observer ses conjonctives, son ossature, la façon dont elle a de s'exprimer. On va parler de son sommeil, de sa digestion justement, de ses relations avec les autres, avec elle-même, de ses évacuations, donc les selles, les urines, la sueur. Toutes ces choses-là en fait auront une importance et me donneront des indications aussi bien sur son fonctionnement personnel et qui elle est, comment elle fonctionne vraiment elle d'un point de vue vraiment individuel et puis quels sont les déséquilibres en fait qu'il y a en ce moment dans sa vie. Pouvoir justement rééquilibrer ça, réharmoniser ça avec tous les outils que l'Ayurveda propose et que l'Ayurveda sourire propose. Donc, ce sera l'alimentation, bien sûr, l'hygiène de vie avec tout ce qui est respiration, méditation, yoga, par exemple. Et puis aussi comment elle se parle à elle-même, hein, ça c'est vraiment de l'Ayurveda sourire, comment elle peut s'aimer mieux au quotidien, comment faire en fait, comment gérer sa journée, son rapport à soi, l'amour d'elle-même, et puis aussi bien évidemment un accompagnement en plantes médicinales quand c'est nécessaire, mais ça c'est toujours en seconde intention. Et en effet, l'Ayurveda, normalement traditionnelle, propose évidemment beaucoup de thérapies corporelles qui sont très importantes, notamment les massages ayurvédiques. Mais moi, je ne les pratique pas parce que c'est pas mon truc, en fait. Donc, on a tous nos spécialités. Moi, la mienne, c'est vraiment, en fait, ma technique, l'Ayurveda sourire et les plantes médicinales. Donc, la grande différence, en fait, je dirais que c'est vraiment lié, en fait, à cette approche qui est absolument globale, qui prend vraiment tout en compte. Et puis aussi, ce que l'Ayurveda sourire propose, c'est déjà en fait de vulgariser l'Ayurveda, de le rendre beaucoup plus accessible au monde occidental et puis de le rendre plus ludique. Il y a aussi cette dimension de joie et de bonne humeur qui fait qu'en fait l'intégrer dans son quotidien n'est pas toujours une contrainte. Alors je dis bien n'est pas toujours parce que il y a toujours un peu de contrainte, il faut toujours un peu sortir de sa zone de confort, aller un peu au-delà de soi-même pour pouvoir opérer des changements dans sa vie. Parce que si on vient et qu'on a l'intention de ne rien faire, de penser que tout va tomber du ciel, là, on n'a pas vraiment compris justement l'essence même de l'Ayurveda, qui est une médecine de responsabilité qui rend en fait les clients acteurs de leur vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on va dire que les gens deviennent acteurs de leur vie dans la joie et la bonne humeur et qu'ils arrivent en fait, grâce à l'Ayurveda sourire, à mieux communiquer avec leur corps, avec leurs émotions, comme si en fait, je leur fournissais un traducteur automatique. Voilà.
Alors, ta pratique, c'est une approche holistique, c'est-à-dire la relation entre le corps et l'esprit, c'est bien ça ?
C'est ça, corps, esprit et âme, d'ailleurs. On est souvent sur les trois, plutôt. C'est très spirituel aussi, l'Ayurveda.
Tu peux nous expliquer un peu la différence entre l'esprit et l'âme ? Quelle serait ta définition ?
Alors là, c'est un sujet et un débat qui durerait des heures. Donc, c'est très compliqué, d'ailleurs, de pouvoir expliquer la différence. Alors, ce que je dirais, en tout cas, d'un point de vue très simple, pour comprendre la différence quand on dit corps, esprit, âme, dans la trilogie, on va dire la trinité holistique, ce serait plutôt qu'il faut considérer l'esprit comme tout ce qui touche au mental et aux émotions, en réalité. Tout ce qui est, en fait, relié aussi à l'intellect. Alors que l'âme, là, on touche vraiment à quelque chose de divin, de spirituel, qui va bien au-delà, qui est vraiment plus du domaine de l'essence pure, de la vraie nature de chaque être, en fait, hein, de la connexion très profonde qu'il y a avec l'univers et avec le reste des êtres humains. et de cette connexion à l'unité. Donc voilà, pour vraiment simplifier, en tout cas, c'est ce que je dirais pour pouvoir faire cette distinction quand on parle de corps, esprit, âme. Mais après, la dimension qui peut différencier l'esprit de l'âme, si jamais on rentre vraiment dans les textes spirituels et dans les différentes interprétations, là, ça peut devenir beaucoup plus compliqué, au même titre que c'est très difficile parfois de différencier la conscience et l'âme, puisqu'il y a plein de mots en fait qui se rejoignent et qui peuvent aussi bien vouloir dire l'un ou l'autre. Donc voilà.
Alors pour résumer, je dis, si j'ai bien compris, l'âme représente le spirituel et l'esprit, le ressenti.
Oui, je dirais le mental, ouais. Si jamais
le mental.
On doit vraiment, si on doit faire vraiment une grosse caricature, oui.
Tu as parlé de ta pratique Ayurveda, la pratique qui traite le corps, et tu parles aussi de Ayurveda du sourire. Alors pourquoi Ayurveda du sourire ?
Bah, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, je mélange l'Ayurveda traditionnel en fait avec la pensée positive et le développement personnel, et aussi mon savoir en plantes. Donc ça, c'est l'Ayurveda sourire. Pourquoi j'ai décidé, en tout cas, de créer cette technique ? C'est parce que j'avais vraiment envie d'offrir quelque chose en fait qui me ressemble, de mettre vraiment mon empreinte personnelle en fait dans ma pratique. Et le sourire, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'ai pu voir en fait tout au long de mon existence justement la puissance qu'avait le sourire sur les êtres. En plus d'être le premier et le seul langage universel, d'ailleurs, c'est quelque chose en fait qui a vraiment en fait une dimension très profonde, qui peut avoir des vertus incroyables. Donc je trouve qu'en fait l'Ayurveda, c'est la médecine la plus incroyable que j'ai été amenée à côtoyer, et le sourire, c'est un des outils les plus puissants en fait et les plus simples qui existent, qui est à portée de tous. Donc j'ai vraiment voulu mêler en fait les deux pour pouvoir apporter à la fois quelque chose qui me ressemble et à la fois en fait une pratique qui a vraiment du sens et qui fait vraiment la différence en fait.
Leur rendre le sourire en leur rendant leur santé, c'est un peu le résumé que je pourrais faire.
En fait, moi, je trouve que le sourire, en fait, c'est souvent le début de tous les processus, en tout cas de mieux-être, de guérison, etc. Donc, en effet, je pense qu'il faut commencer par là. Moi, je suis complètement convaincue, en fait, que ça a un véritable impact sur les cellules. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Je crois qu'en fait, quand on commence à penser positif et quand on commence vraiment à se sourire à soi, déjà, et puis à sourire à la vie, on développe, en fait, une certaine forme d'immunité intérieure, une espèce de contamination positive des cellules qui forme un espèce d'égrégore qui fait un bouclier en fait contre justement tous les indésirables et les cellules défectueuses. Et je crois vraiment en fait que ça a un impact sur la santé. C'est mon ressenti et c'est ce que je vois dans ma pratique. Après, encore une fois, c'est un ressenti de praticienne et pas un ressenti de médecin. Donc il faut toujours faire aussi attention à ça. Mais en tout cas, c'est ce que je propose. Ouais.
Oui, sourire, c'est important. Le sourire c'est permet de s'ouvrir aux autres, d'accueillir son entourage.
Non, bah en fait, oui, le sourire, ça crée du lien. Enfin, je pense qu'en fait, que c'est ça ce qui se passe, c'est que ça crée du lien, ça nous relie à notre humanité. Et en fait, sourire à quelqu'un, il y a déjà une connexion du cœur, quand c'est un vrai sourire, en tout cas, hein, quand c'est un sourire qui est pas un sourire marketing, quoi, un vrai sourire. Et là, on a tout de suite une connexion avec l'autre, en fait, et ça parle. Et encore une fois, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, c'est quelque chose qu'on partage et qui met en avant et en lumière en fait notre humanité.
Le sourire est la porte du cœur.
Ça pourrait.
Oui. C'est vrai que c'est important de sourire, mais on sourit surtout quand on fait des choses que l'on aime. Et pour toi, quels sont les sujets qui te tiennent à cœur ?
Bah alors déjà, en effet, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Je pense que, en effet, on sourit beaucoup quand on fait ce que l'on aime, parce qu'en fait, on arrive à se connecter à sa joie naturelle. Et la joie naturelle, c'est quand même l'essence de chaque être. Donc déjà, là, on est vraiment dans le domaine du spirituel. Et là, ça rejoint aussi cette idée que tu as de sourire qui est la porte du cœur. Et puis après, en effet, créer de l'enthousiasme, encore une fois, ça, c'est très spirituel aussi pour les gens, en fait, qui ont du mal à comprendre la spiritualité et à l'intégrer dans leur vie. L'enthousiasme, ça vient quand même du grec anthéos, hein, avoir Dieu en soi. Dès qu'on est connecté à l'enthousiasme, on est en fait justement dans cette joie naturelle, dans notre vraie nature, notre essence divine. On se connecte un peu à ça. Et là, en fait, le sourire, en fait, est un résultat, je dirais, un résultat de l'enthousiasme. orgasme, un résultat en fait de la manifestation de cette joie naturelle, de cette essence divine à l'intérieur de soi. Et ça fait tout de suite en fait une différence. Et c'est pour ça en fait que ça, on arrive à se connecter à l'autre aussi par le sourire. Et du coup, bah, moi, ce que j'aime, en tout cas, ce qui me fait plaisir, évidemment, c'est d'accompagner les gens et de voir leur progression qui est parfois fulgurante. Hein. Moi-même, je suis étonnée parfois, c'est vraiment fou. Donc, j'adore ça. C'est quelque chose qui me porte beaucoup, vraiment qui m'anime. Après, j'ai une véritable passion pour les plantes médicinales, ça c'est certain. Donc, c'est important pour moi de pouvoir les intégrer aussi dans ma pratique d'une façon ou d'une autre, parce que je trouve qu'elles ont en fait des pouvoirs en fait qu'on peut même pas imaginer quand on n'est pas en train de les utiliser au quotidien. Mais il y a des choses qui se passent en fait d'un point de vue énergétique qui sont vraiment bluffantes. Voilà. Donc je dirais en tout cas que ça fait partie des choses que j'aime. Mais après, dans la vie, il y a plein de choses que j'aime évidemment. Mais en tout cas, le contact avec l'autre et puis ce contact aussi un peu énergétique avec la plante, c'est quelque chose de fascinant.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'un cas de guérison qui t'a marqué?
Alors encore une fois, je ne vais pas dire guérison parce que c'est du vocabulaire médical et que je ne suis pas médecin. Ce que je peux dire,
excuse-moi.
Non, il n'y a pas de problème, mais c'est important en fait de le dire parce que du coup voilà, je suis praticienne en bien-être, donc voilà, au cas où quand même, c'est toujours mieux de le préciser.
Alors quel mot je pourrais utiliser?
Bien-être, mieux-être.
Accompagnement ou bien-être?
Ouais. Okay. Exactement, ouais. Et en fait, si jamais il y a un exemple, par exemple, quelque chose qui me vient, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me touche beaucoup, parce qu'en général, ça me touche toujours beaucoup quand ça arrive. En fait, j'accompagne plusieurs femmes, en fait, qui sont censées être infertiles, qui ont tout fait et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des personnes qui ont fait de nombreuses fécondations in vitro, enfin qui ont fait tous les parcours possibles et inimaginables, qui sont soi-disant trop vieilles, enfin voilà, qui arrivent en fait dans mon cabinet complètement désespérées et elles n'ont plus aucun espoir. Elles se disent que de toute façon, elles n'ont plus rien à perdre puisque a priori elles n'auront jamais d'enfants, même si elles ont ce désir profond. Et quand j'accompagne ces femmes et qu'elles tombent enceintes, ce qui arrive de façon assez régulière en fait finalement, ça me met dans une joie profonde. Enfin, ça, c'est, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait que de pouvoir accompagner à la vie, qu'elle puisse donner naissance en fait, entre autres, grâce à l'Ayurveda sourire. Mais je dis bien entre autres parce qu'encore une fois, c'est toujours un ensemble de choses. C'est comment en fait cette personne elle a pu prendre conscience des capacités qu'elle avait en elle, comment elle a pu reprendre confiance en elle, comment elle a pu retrouver un tout petit peu la foi, y croire encore, comment elle a pu continuer, comment elle a pu accueillir sa part de résilience, mais pour en faire aussi une force qui lui permet d'accepter qu'il y a peut-être d'autres possibilités et qu'il y a peut-être des choses qui peuvent encore se passer. Et puis laisser l'ouverture à ça, faire de son mieux, en tout cas pour prendre soin d'elle, pour pouvoir accueillir la vie dans son corps et finalement, en fait, pouvoir vraiment l'accueillir. Enfin, c'est tout un cheminement. Donc, en fait, on ne peut pas réduire ça qu'à une pratique parce que moi, c'est juste, en fait, un des outils. Mais finalement, ce qui se passe en elle, en fait, en cette femme, par exemple, c'est tout le processus intérieur qu'elle a déjà mis en place. Et voilà, moi, je suis juste, en fait, une étape sur son chemin. Mais elle, tout ce qu'elle va développer, tout ce qu'elle va faire au quotidien, sa responsabilité, le fait qu'elle soit actrice de ce processus-là, c'est ça qui fait la vraie différence. Et il peut y avoir aussi plein de petites choses qu'elle va utiliser à côté qui l'aideront en parallèle.
Je suis vraiment ému par ton retour d'expérience. C'est vraiment beau pour une femme de pouvoir enfanter alors qu'elle se sentait infertile.
Ouais.
Je ne sais pas si j'utilise les bons termes.
Mais
c'est vrai que c'est important pour une femme, pour certaines femmes, pas toutes, justement de pouvoir enfanter. C'est vraiment un beau succès.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais bon, encore une fois, c'est un beau succès pour elle-même d'abord. Mais oui, c'est sûr.
Et pour toi, quels sont tes plus beaux succès?
Moi, ça, pour moi, déjà, ça me remplit de joie. Ou toutes les personnes, en fait, qui ont pu changer de vie, qui ont réalisé leurs rêves parce que elles avaient plus confiance en elles, parce que il y avait des obstacles, tout ça. Mais c'est extraordinaire. Enfin, déjà, ça, c'est fou. Et puis, je crois que moi, en fait, c'est surtout de pouvoir mettre en lumière ma pratique, en fait, qui me met en joie et qui a un vrai succès au quotidien. Me dire que j'arrive, en fait, à transmettre ça, à transmettre quelque chose de vraiment intérieur, quelque chose de vraiment personnel. et de l'utiliser au quotidien, de vivre de ça, pour moi, c'est fantastique. Déjà, c'est déjà chaque jour un cadeau, en fait.
Ah bah, t'écouter, on dirait que rien ne te perturbe et que tu n'as jamais eu de moments difficiles dans ta vie.
Ah non, mais si, j'en ai eu plein, évidemment. D'ailleurs, en fait, c'est ce que je dis tout le temps à mes pépites, à mes clients, c'est que je suis parfaitement imparfaite. Et c'est pour ça que je peux les accompagner. C'est parce que je comprends leurs souffrances, parce que je comprends leurs difficultés, que je comprends leurs troubles. C'est parce que moi-même, j'en ai eu plein et j'en ai encore. Et j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours. Je suis un être humain. Donc, non, il y a beaucoup de choses qui me perturbent. Mais j'essaie souvent de relativiser et de changer de perspective. Parce que j'essaie de prendre soin de moi au maximum et je sais qu'en fait, rester dans tout ce qui est négatif et rester complètement dans l'ombre, en tout cas, c'est pas quelque chose qui va m'aider. Mais j'ai besoin parfois aussi d'être dans l'ombre totale, d'être dans des phases en fait basses pour pouvoir justement rayonner, retrouver ma lumière. C'est pas réaliste en fait d'imaginer qu'on peut tout le temps être au top, tout le temps joyeux, tout le temps être souriant. C'est pas le propos, ni pour moi, ni pour l'Ayurveda sourire, en fait. Hein. Pour pouvoir, en fait, être dans la joie, le bonheur, et puis rayonner, il faut aussi aller visiter ses ombres et ses souffrances. Donc non, j'en ai beaucoup. Mais c'est ce qui fait aussi, encore une fois, que je suis complètement humaine. Et heureusement pour moi.
L'humain et ses imperfections parfaites.
Exactement.
Alors, tu sais que mon podcast s'articule autour du leadership interne. Quelle méthode ou quelle astuce pourrais-tu nous conseiller pour gagner confiance en nous et devenir maître de sa vie?
Alors déjà, ça, c'est un très long processus. Déjà, je dirais qu'il faut pas... Il faut être un peu patient et pas se dire en fait qu'on va se lever un matin et que tout va aller bien d'un seul coup comme ça, pouf pouf, qu'on va tout changer, que toute notre vie va être transformée, parce qu'en fait la transformation elle est quotidienne et que l'amour de soi c'est un travail en fait de chaque jour jusqu'à la fin de sa vie pour tous les êtres humains. Donc c'est illusoire en fait de croire le contraire. Moi je dirais déjà ça, et donc dans ce sens je crois que la seule chose qui est importante et qu'il faut vraiment développer, à mon sens, au quotidien pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même, c'est la bienveillance. C'est vraiment être bienveillant et accueillir en fait tout ce que l'on est. Qu'un jour, ce soit le top et puis qu'on se sente super bien, qu'on ait une énergie complètement folle, qu'on a l'impression qu'on peut déplacer des montagnes et que le lendemain, en fait, tout peut s'effondrer. C'est comme ça, en fait, la vie n'est qu'une série de fluctuations, c'est l'impermanence même, et c'est comme ça, en fait. Donc, c'est comment j'arrive à composer avec cette impermanence et comment j'arrive, moi, à me respecter et à apprendre à m'aimer tous les jours, en fait, quelles que soient les situations, et justement dans cette impermanence. Et la bienveillance est sûrement le seul outil, en fait, qui peut permettre ça, se dire que, on est là pour expérimenter des choses, qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. On est dans une croissance personnelle et spirituelle constante et que l'apprentissage, de toute façon, sera toujours quotidien. Donc voilà, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie m'apporte? OK, aujourd'hui, c'est pas très drôle. Mais finalement, qu'est-ce que je peux en faire? En fait, comment je peux transformer ça en quelque chose de positif en étant toujours dans la bienveillance et me dire que j'ai le droit de pas aller bien, comme j'ai le droit aussi d'aller super bien et de me sentir, mais incroyablement bien, d'accueillir aussi toute cette joie dans ma vie. Voilà, la bienveillance.
Je peux te dire que moi, je suis très bien avec toi en ce moment. J'adore notre conversation.
Je te remercie.
Alors, ton conseil de s'aimer et d'être une meilleure version de soi-même, ça me parle. Et j'aimerais rebondir sur une question que j'adore poser. C'est, tu te retrouves devant la petite Gwenaëlle à 14 ans, la jeune et jolie Gwenaëlle.
Ah, je suis toujours jeune.
Qu'est-ce
jolie,
que tu... Ah, non, mais à l'époque, excuse-moi. Tu étais très jeune.
Ah, mais 14 ans quand même. Hein. Mais bon, oui, alors dis-moi, pardon.
Il y a 2-3 ans, oui. Alors...
Oui. Non, heureusement, quand même, j'ai grandi. Oui, alors dis-moi.
Qu'est-ce que tu lui conseillerais avec toute l'expérience que tu as acquis maintenant?
Eh ben, je pense que je lui dirais, à 14 ans justement, parce que ça, là pour le coup tu es en plein dedans, l'adolescence, tout ce qui est lié à l'identité, l'image de soi, je pense que je lui dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et qu'en fait il faut juste être soi-même. qu'en fait, on s'en fout de ce que les autres pensent, de l'image, tout ça, que c'est pas important, que finalement, ce qui compte, c'est vraiment d'être authentique, de ne pas s'abandonner, d'être son meilleur partenaire de voyage, voilà, d'être sa meilleure amie, en fait. Hein, je pense que c'est ce que je me dirais. Et que, ben voilà, que, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire sans me préoccuper, en fait, de... des contraintes sociales, de ce qu'il faut faire en fait, de ce qui est bien ou pas en réalité, et puis décider moi ce qui est bien ou pas pour moi. Mais quand on a 14 ans, on a rarement en fait justement cette lucidité sur soi. Je pense que ça vient avec l'âge, avec les expériences justement. Après, mmh. C'est possible, hein. Moi j'accompagne quelques ados qui me font halluciner, hein. Ils sont vraiment hyper matures, donc c'est possible. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, quand on a 14 ans, moi en tout cas, quand j'avais 14 ans, je me préoccupais tellement de mon image. C'était fou, quoi. C'était fou. Et en fait, je pense que j'agissais jamais vraiment complètement 100% pour moi-même. Il y avait toujours en fait un calcul dans ma tête de ce que les autres allaient penser, de ce que je pouvais représenter en fait, de ce que je pouvais dégager. Et en fait, finalement, on n'a tellement pas de contrôle sur ce que les autres pensent et comment ils nous voient. Puis on imagine souvent des montagnes de choses qui n'existent pas, qui sont irréelles. En fait, les gens souvent ne pensent même pas, ne voient pas du tout ça de nous. Et en fait, ça nous pourrit la vie, ça nous gâche l'existence, ça nous empêche en fait d'ouvrir un espace de liberté pour l'authenticité qui est en nous. Et ça, c'est vraiment du gros gâchis. Donc, c'est ce que je dirais à la Gwenaëlle de 14 ans, d'avancer librement, de s'aimer telle qu'elle est, sans avoir peur du regard des autres. Et puis voilà, de s'autoriser en fait, hein, à vivre ce qu'elle a envie de vivre de la façon dont elle l'a envie.
Sois toi-même et avec le sourire.
Exactement. Mais d'ailleurs, ma mère me disait toujours, ma mère c'est une grande sage, aime-toi d'abord et tout te réussira. Mais finalement, c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête et je crois que c'est une grande phrase de sagesse.
Aime-toi et tout te réussira. Oh, ça, c'est une citation que je vais garder.
Ah, attention, il y a un copyright, hein.
Ah ben, je suis prêt à payer s'il le faut. Gwenaëlle, est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose?
Mais non, écoute, Nicolas, je ne sais pas. Moi, j'ai parlé de ma pratique. Pour moi, c'est toujours un vrai plaisir. C'est tout ce que je peux te dire, en fait. Je pense que j'espère que ça pourra donner un peu des éclairages aux personnes qui écouteront. C'est vrai que la puissance du sourire, c'est vraiment dingue, que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Je crois qu'en réalité, toujours au-delà des mots, il faut agir, il faut essayer. Donc, je dirais aux gens de peut-être se lancer, puisque finalement, c'est toujours les actes qui ont, à mon sens, en tout cas moi, plus d'importance. Donc, les actes pour soi-même, essayer de se donner les moyens, d'y aller, quoi. Et puis, de voir en fait ce qui va se passer. De toute façon, la vie a un plan, donc peut-être lui faire confiance et puis nous, se donner les moyens d'aller vers la meilleure version de soi, encore une fois, vers son leader intérieur, comme tu dirais. Et voilà, juste d'expérimenter. La vie, finalement, c'est de l'expérimentation.
Alors, merci Gwenaëlle. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez retrouver Gwenaëlle Bata sur les réseaux sociaux et aussi sur son site www.mihira-ayurveda.com. Vous pourrez aussi découvrir son livre Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire. Merci Gwenaëlle.
Merci Nicolas.
Je pense que tu as été très inspirante.
Ah ben écoute, j'espère, je te remercie.
Je te remercie et je te dis à bientôt.
À très bientôt, merci. Au revoir.
C'est en souriant que nous allons passer à l'exercice tant attendu aujourd'hui. Je vais vous initier à l'exercice du sourire. Alors, c'est un exercice ultra simple, facile à réaliser et ne prend que quelques secondes. Avant de tester l'exercice, mettez-vous dans un coin tranquille. Maintenant, suivez les étapes suivantes. Commencez tout d'abord par fermer les yeux. Faites votre plus beau sourire, que vos lèvres atteignent les oreilles. Pensez à une chose négative. Soit vous n'y arriverez pas. Soit votre sourire s'atténue. À ce moment-là, souriez de plus en plus fort et vos pensées ne seront plus négatives. C'est la preuve irréfutable que le sourire chasse les mauvaises pensées. Alors, utilisez-le à profusion, le matin au réveil, le soir au coucher ou à tout moment de la journée, car le sourire, c'est le reflet du cœur. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode et je remercie chaleureusement Gwenaël de nous avoir convaincus de sourire. L'épisode vous a plu? Laissez-moi une remarque dans les commentaires. La semaine prochaine, nous traiterons de l'optimisme. Je vous souhaite avec le sourire une très belle semaine. À bientôt.